Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'amour est-il un objet scientifique ? Oui, mais qui reste mystérieux, semble répondre d'emblée l'exposition de l'amour à voir au Palais de la Découverte à Paris jusqu'à l'été prochain. Avec nous pour y réfléchir, Astrid Aron, co-commissaire de l'exposition, muséographe rattaché au Palais de la Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Et le philosophe Francis Wolff, professeur émérite à l'ENS Paris, auteur cette année de plaidoyer pour l'universel, fonder l'humanisme et précédemment de Il n'y a pas d'amour parfait chez Fayard. C'était il y a 3 ans où il interrogeait déjà cet étrange objet du désir qu'est l'amour et proposait une très sérieuse carte du tendre constituée de 3 pôles, l'amitié, le désir et la passion. Il est aujourd'hui l'un des auteurs aussi du livre ou contributeur du livre qui accompagne l'exposition de l'amour, fragment d'un discours scientifique publié par Actes Sud. Bonjour Francis Wolff.
Bonjour Olivier Gesbert.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Comme Barthes dans ses fragments d'un discours amoureux, vous cherchez donc à éclairer ensemble cette expérience à travers et avec toutes les formes d'art disponibles, la littérature, la peinture, la musique, le cinéma, mais aussi avec l'aide de la science. Astrid Aron, depuis quand l'amour est un sujet d'étude ou d'inquiétude pour les scientifiques ?
Alors, de façon beaucoup plus récente que c'est une préoccupation pour les artistes, les écrivains, les poètes. Et c'est la raison pour laquelle on a convoqué l'ensemble, en fait, de ces regards dans cette exposition qu'on a croisé. Alors, c'est vrai que les sociologues, par exemple, ont étudié l'amour depuis maintenant assez longtemps. Mais on est outillé de façon beaucoup plus récente avec les méthodes d'imagerie scientifique qui permettent de sonder le cerveau. Et donc, on est à l'aube de tout un tas de nouveaux résultats passionnants.
Oui, c'est presque une opération, Francis Wolff, à cœur ouvert, qui se joue dans cette exposition et qui nous mène étonnamment directement au cerveau. S'il est biologiquement encore assez difficile de savoir exactement où se niche ce sentiment, on se rend assez vite compte que le cerveau a un rôle important à jouer sur cette question.
Oui, le cerveau et puis tout le reste du corps qui ne lui obéit pas forcément ni toujours nécessairement. Mais pour revenir à la question que vous posiez, il est vrai que les scientifiques au sens étroit s'intéressent depuis peu sans doute à l'amour, mais au sens large, l'idée qu'il y ait une science de l'amour est une idée assez ancienne. C'est sans doute porté par les philosophes. Le plus grand des philosophes anciens et son œuvre la plus connue s'appelle Le Banquet. Elle est consacrée à une discussion qui est en partie philosophique, mais aussi à leurs yeux en partie scientifique, pour essayer de définir ce petit dieu mystérieux qui s'appelle Eros.
Et vous en savez beaucoup sur cette question, vous, le philosophe Francis Wolff,
parce que vous êtes
penché en tout cas sur nos cœurs. Je le disais il y a 3 ans dans cet ouvrage, il n'y a pas d'amour parfait, avec cette carte du tendre, cette triangulation amoureuse que vous nous présentiez et dont on va reparler. On se rend bien compte à travers tous ces regards que vous sollicitez pour cette exposition, Astrid Aron, que est en train de naître peut-être une nouvelle science, ou en tout cas une nouvelle démarche interdisciplinaire que vous appelez les sciences affectives, et qui mêle à la fois les artistes, peut-être les philosophes bien sûr, mais aussi des sociologues, des historiens et des neuroscientifiques.
Effectivement, on a travaillé en partenariat scientifique avec le Centre interfacultaire de sciences affectives de Genève, qui a déjà cette approche de regarder un même objet scientifique par le prisme des différentes disciplines. Et on a également convoqué, on a collaboré avec l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui avait des résultats absolument passionnants sur les rencontres et sur sur tout ce que fait la nouveauté de ces rencontres en ligne, qui peut-être redessigne à la marge un peu nos façons de s'aimer.
Alors qu'apprend-on avec le concours, voire le secours des neurosciences ? Quel est le rôle du cerveau dans l'amour ? On va écouter les mots de la neurobiologiste Lucie Vincent.
C'est quelque chose qu'on voit dans le cerveau aussi bien des amoureux que le cerveau de la mère quand elle regarde une image de son bébé, par exemple. Il y a certaines parties du cerveau qui sont mises en sommeil, mais en contrepartie, il y a d'autres parties du cerveau qui sont vraiment très excitées. Et il y a cette attraction qu'on ressent pour l'autre personne se traduit dans la suite des choses, des événements, par un emballement des systèmes de récompense qui font qu'on devient dépendant de notre partenaire. On se sent bien quand on est près de lui. Quand il n'est pas là, il nous manque énormément. Tout ça, ce sont des systèmes, les mêmes systèmes qui sont impliqués dans la prise de drogue, par exemple, ou même dans la quête de la nourriture, de la boisson, tout ce qui est la passion.
Voilà, l'amour s'exprime à travers et dans le corps, mais c'est quand même peut-être dans le cerveau que tout commence. Astrid Aron.
Oui, alors effectivement, ce qui est vraiment important de réaliser, c'est que il n'y a pas une zone qui serait dédiée à l'amour. Hein. Énormément de structures cérébrales fonctionnent en réseau. Et ce qui est également intéressant, c'est que on va avoir des zones comme l'insula qui sont liées, effectivement, qui sont éveillées en cas de sentiments amoureux, de désir sexuel, mais qui rentrent également en jeu dans nos relations d'attachement en général, dans nos émotions, dans l'attachement mère-enfant. Et donc ça valide aussi en quelque sorte cette approche qu'on a eue dans l'exposition, qui est de ne pas parler que du sentiment amoureux au sens où on l'entend dans chagrin d'amour, mais de toutes les formes d'attachement. Hein, c'est-à-dire que là on a convoqué quelque chose qui serait peut-être cher à Francis Wolff, qui est l'aide de la langue grecque, qui nous permet avec ces quatre mots d'avoir une subtilité, ces quatre mots grecs, une subtilité que le français n'a pas. Puisque nous utilisons le même mot « aimer » pour parler de notre amoureux, nos amis, nos enfants, et même son amour du chocolat, pourquoi pas, alors que le grec fait la nuance.
Alors on va peut-être se référer au grec, mais aussi à votre savoir, Francis Wolff, pour tenter de définir l'amour. Et déjà, Astrid Aron l'évoquait, c'est un sentiment complexe qui a bien du mal à se résumer, à se normer, à entrer dans des schémas déjà préétablis. Vous vous demandez-vous d'ailleurs si c'est pas un tue-l'amour que de tenter de le définir, l'amour?
Oui, je me pose cette question et je réponds non. Pas plus qu'il n'est... on ne tue la poésie en tentant d'éclairer ou d'éclaircir ses multiples sens. Je pense que l'exercice définitionnel n'est pas opposé au sentiment amoureux. Mais vous dites c'est un sentiment, et moi je viens de reprendre le mot. Est-on sûr que c'est un sentiment? Et si c'est un sentiment, quel sentiment? Est-ce le souci? Est-ce le bien-être qu'on a en présence de l'aimer? Mais il y a des cas où l'amour se double d'un sentiment contraire. Par exemple, on ne supporte plus l'être aimé, pourtant c'est ni avec toi ni sans toi. Donc c'est ça plutôt la difficulté de définir l'amour, c'est que des défis auxquels j'ai tenté de répondre, mais... La véritable difficulté, c'est qu'il y a une infinité de façons d'aimer et des manières qui semblent contradictoires. Le jaloux veut parfois tuer l'aimé. Donc, que faire de cette extrême diversité des formes non seulement d'attachement qui vont en effet de l'attachement de la mère pour son bébé ou de celui qu'on peut avoir pour le dieu créateur dans certains cas de mysticisme, qu'en faire et est-il possible de l'enserrer dans les l'étroite exigence de ce qu'est une définition. Alors je livre néanmoins ma solution, si je puis dire. L'amour au sens qui est plus étroit, en effet, que celui auquel est consacrée l'exposition. L'amour au sens où on parle de chagrin d'amour, ou d'histoire d'amour, ou de film d'amour, ou d'histoire d'amour. Je le définis de la façon suivante. C'est la fusion instable et dynamique... Alors, c'est en effet le début est assez prosaïque. C'est la fusion instable et dynamique entre trois pôles ou trois ingrédients hétérogènes que sont l'amitié, le désir et la passion. Alors, pourquoi instable? Parce que ça ne se mêle jamais parfaitement, étant donné qu'ils sont hétérogènes. Et pourquoi c'est dynamique? Parce que ça ne cesse d'évoluer. L'amour, c'est une histoire. L'amour, c'est des histoires. L'amour, ça fait des histoires. Et ça ne cesse d'évoluer entre ces trois pôles. Et ces trois pôles sont des pôles qui sont à la limite antithétique, parce qu'ils n'ont pas la même provenance anthropologique, ils n'ont pas le même sens. L'amitié, c'est une relation. Le désir, c'est une disposition, la passion c'est un état, et donc tout cela doit cohabiter dans ce qu'on appelle l'amour, mais ça cohabite d'une façon, je l'ai dit, instable.
Ça veut dire que l'amour complet n'existe pas ? Ça veut dire que l'amour chimiquement pur n'existe pas ?
Ça veut dire que l'amour chimiquement pur, on pourrait le définir comme étant au centre de ce triangle, comme le point qui soit équidistant, mais il y a des amours extraordinaire, formidable, extrêmement intense, qui ne cesse d'évoluer. C'est peut-être aussi ce qui fait la durabilité des amours, c'est que ils évoluent et la manière dont se mêlent ces pôles change avec le temps. Le désir peut devenir affection, tendresse, la passion peut devenir fusion, l'amitié peut devenir un sentiment qui prend le pas sur l'amour. Bref, tout est possible. Et vous dites chimiquement pur, je dirais que au fond il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'aimer. Ce qui est sûr, c'est que il y a toujours quelque chose d'instable dans ce qu'on appelle l'amour.
Astrid Aron. Oui, alors quand vous parlez d'amour chimiquement pur, justement l'un des propos de l'exposition, c'est de raconter à quel point il n'y a pas une molécule, un filtre d'amour, mais de nombreuses hormones et neurotransmetteurs qui chacune vont contribuer et non pas seulement à l'amitié ou la passion ou au désir, mais à toutes nos formes d'attachement. Et donc oui, le mythe du filtre d'amour est hors de portée. Et c'est peut-être encore heureux.
Alors ça, on le voit notamment dans la vidéo, un cerveau qui palpite, qui nous montre que le cerveau est effectivement un véritable organe de l'amour, avec ces différents canaux qui sont présentés à l'intérieur. Il y a aussi cette bande dessinée, ce livre « Ocytocine, mon amour », illustré par Arnaud Tételin, qui montre comment on a découvert le rôle, l'importance de l'ocytocine qu'évoquait à l'instant la chercheuse Lucie Vincent dans notre sensation, dans ce sentiment amoureux. Quelles sont les différentes facettes que l'on peut découvrir aussi à travers les scénettes de la galerie des attachements, à Astrid Aron, puisque vous nous disiez qu'il y a de multiples sortes d'attachements. On pense notamment à cette collection de doudous que vous présentez, mise en scène par l'artiste Mathieu Lemarié.
Alors, en fait, l'exposition, elle se décompose effectivement en deux parties, une galerie des attachements et une galerie des sciences. Et dans la galerie des attachements, qui est une sorte de grande introduction sur l'amour, mais au sens, l'amour et l'attachement, au sens culturel très large, on est allé puiser dans des références parfois classiques, parfois plus contemporaines, certaines populaires, d'autres plus confidentielles. Donc là, vous faites référence à cette installation de doudou qui relate la découverte de Winnicott sur l'objet transitionnel, hein, qui permet à l'enfant, en tout cas dans la culture occidentale, de se séparer de sa mère. Mais on a également en fait fait référence à tous ces poètes et ces écrivains en installant notamment des dioramas qui sont, vous savez, des scénettes dans des alcôves et qui vont vous raconter par exemple ce qu'est la cristallisation de Stendhal et faire un petit pas de côté par exemple en se servant de la citation de « On ne badine pas avec l'amour », la fameuse tirade de Perdican. Et qui est revisité là sous la forme d'un jeune Perdican contemporain qui chercherait à prouver son amour à une Camille d'aujourd'hui.
Comment tombe-t-on amoureux, Astrid Aron, Francis Wolff, et comment arrête-t-on d'aimer ?
Jim pensait aux enfants qu'il aurait pu avoir avec Catherine. Il les imaginait plus beaux les uns que les autres, une grande maison pleine. Il se disait aussi, si nous n'avons pas d'enfants, Catherine reprendra ses aventures. Ils ne se parlèrent plus et c'est dans cette chambre d'hôtel triste et froide qu'ils se prirent encore une fois sans savoir pourquoi, pour mettre un point final peut-être. C'était comme un enterrement ou comme s'ils étaient déjà morts.
Alors là, on entend la manifestation du corps pour le revoir aussi, Francis Wolff, avec cet extrait de Jules et Jim qui interroge aussi la place que l'amour occupe dans nos sociétés. Reste-t-il une condition du bonheur, l'amour ?
Je vous remercie d'avoir passé cet extrait de Jules et Jim, qui est un des films qui me bouleverse le plus et qui montre au fond quelque chose d'utopique, qui est la tentative d'un amour à trois qui ne tuerait pas l'amitié cette fois-ci et montre en quelque sorte son échec. Je ne sais pas si les plus beaux chants d'amour sont les chants les plus tristes, mais il y a toujours des limites que montre toute histoire d'amour, que ce soit les conventions sociales, les règles admises ou tout simplement les limites humaines. Et là, en particulier, la contradiction entre amitié et amour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Astrid.
Oui, et puis c'est vrai que c'est intéressant aussi de réinterroger ce modèle hein, de l'amour romantique qui est une référence qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui, mais qui n'est finalement pas si ancienne que ça. Et ce que nous évoquons dans l'exposition, c'est que ce schéma qui consiste à dire qu'on va d'abord s'aimer, puis s'unir à deux au sein d'un contrat de mariage, c'est quelque chose qui est né relativement récemment, au 19e siècle, avec l'industrialisation, parce qu'avant, c'était les familles hein, qui, dans les villages, présidaient au choix. Et ce modèle, il est très présent aujourd'hui. Les sociologues nous disent qu'il est même encore plus présent. Il y a des attentes encore plus fortes à l'égard du couple. Alors même que d'autres façons d'envisager ces relations sont possibles, ont toujours existé et continuent.
L'amour, on peut dire aussi aujourd'hui, ses manifestations ou son expression sociale sont quand même aujourd'hui en pleine mutation, bousculées depuis une quarantaine d'années hein, par la libération sexuelle et aujourd'hui encore très récemment par la mutation ou les mutations technologiques, le virtuel, le technologique, avec ces nouveaux espaces de rencontre que sont les applications. Pour peut-être donner le ton, je vous propose d'écouter les mots de la sociologue Marie Bergström qu'on recevait autour de la grande table, auteure de « Les nouvelles lois de l'amour, c'est à la découverte ».
Souvent on a dit que les sites et les applications ça révolutionne tout, que c'est une véritable révolution sexuelle, ça on ne peut pas le dire. C'est-à-dire que cette nouvelle pratique elle s'inscrit vraiment dans des évolutions longues du coup qui les précèdent. Donc c'est plutôt un produit d'évolution dans la sexualité et le couple et dans l'intimité dont on voit aujourd'hui le résultat et des évolutions que ces applications et sites prolongent aussi activement. Mais en revanche là où il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est que ces sites et applications, ils réunissent beaucoup d'utilisateurs. Il faut se souvenir que des services de rencontre, il y en a eu avant. Et même il y a très longtemps, c'est-à-dire que les premières annonces et agences matrimoniales apparaissent au 19e siècle. Et pour la première fois aujourd'hui, ces services sont utilisés par un public nombreux. Donc il y a vraiment là une banalisation de recours à des intermédiaires.
Voilà, des nouvelles pratiques qui n'ont pas été révolutionnées par le numérique, mais bousculées quand même dans cette banalisation qu'évoque Marie Bergström de ces outils. Astrid Aron.
Oui, alors on a effectivement bénéficié des travaux de Marie Bergström et de l'INED qui ont fait des grandes enquêtes hein, sur ce que le numérique et les sites de rencontres changent ou ne changent pas à nos façons de nous rencontrer. Et donc dans l'exposition, on a choisi de présenter ces statistiques sous forme de maquettes. Et ce qui est très intéressant, c'est que et c'est la thèse de Marie Bergström, c'est que les sites de rencontre donc ne sont pas le premier moyen aujourd'hui de se rencontrer hein, on se rencontre encore toujours dans ses études, son lieu de travail, ses soirées entre amis. Malgré tout, c'est quelque chose qui augmente. Et ce qu'il y a de spécifique à la rencontre en ligne, c'est qu'elle se fait à l'abri des regards. Et donc, avec cette intimité qu'on a, le fait de ne pas être sous le regard de la société, des autres, on va avoir des modifications qui sont, par exemple, dans le temps, la durée avant de passer, par exemple, à l'acte sexuel. Donc tout ça, on l'a représenté sous forme de maquette artistique, de data visualisation. Et on pourrait penser aussi que ces sites qui brassent énormément finalement tous les milieux sociaux permettent à des gens de se rencontrer qui seraient beaucoup plus avec beaucoup moins d'homogamie que ce qu'on peut voir à l'œuvre dans les autres moyens. Or ça n'est pas le cas parce que de nouveaux codes sont à l'œuvre, et des codes notamment liés à tous ces échanges de textes. Et l'un des autres propos de l'exposition, c'est de dire qu'on s'écrit toujours aujourd'hui, le langage, le verbe est toujours très important.
Francis Wolff, ce retour de l'écrit et l'amour, oui, en prise au data aussi.
Le texto, il y a une très belle projection de texto qui circule dans l'expo, qui est à la fois très amusante et très touchante. Tout cela change. Je crois que ce qui change le plus, peut-être, c'est la révolution anthropologique à laquelle on est le plus confronté, c'est l'égalisation des femmes et des hommes dans ces rencontres, y compris sur Mythique. Et ça, je crois que c'est une révolution anthropologique encore plus considérable que les modes de rencontre. Cela dit, les modes de rencontre ont changé dans les sociétés rurales, les sociétés urbaines et avec les révolutions technologiques. Cela dit aussi, les conventions, les rites, les tabous, les convenances sexuelles sont considérablement changeantes d'une société, d'une culture à l'autre. Mais la question que je me pose et à laquelle j'essaie de répondre, c'est: y a-t-il de l'universel là derrière? Et ce qui m'a intéressé, c'est que en dépit de ces devoirs relativistes auxquels se livrent les historiens, comme c'est leur métier, les sociologues, comme c'est aussi leur métier, y a-t-il une musique de fond et qu'on retrouve dans un certain nombre de littératures, pas forcément au sens de l'amour romantique, mais de quelque chose qui est fondamentalement humain et qui est inchangeant en dépit des bouleversements sociaux. Quand vous regardez l'ensemble des littératures traditionnelles indiennes, arabes, japonaises, chinoises, évidemment occidentales, vous rendez compte que la notion d'histoire d'amour, en dépit des conventions, en dépit des usages, en dépit des familles, en dépit des règles, a toujours existé dans toutes les cultures. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous révèle aussi bien de l'être humain que de ce que j'entends par ailleurs par l'universel.
Mais l'amoureux que vous êtes pourrait faire confiance à l'algorithme pour une rencontre, pour décider aussi peut-être de ses amours futurs?
En ce qui concerne ma confiance, je fais plutôt confiance à mon propre triangle qu'aux algorithmes, parce que mon triangle n'enferme pas les rencontres dans une équation définie, mais permet de se promener d'un pôle à l'autre.
Mais dans « Il n'y a pas d'amour parfait », votre précédent essai, vous rappeliez, Francis Wolff, que l'usage des applications de rencontres ne change pas grand-chose à la rationalité de l'amour. Qu'est-ce qu'il change alors, vraiment, précisément?
Les sites de rencontres? Je pense que les sites de rencontres, je l'ai dit à l'instant, changent essentiellement la différence de statut considérable qui était dans toutes les formes de drague, de séduction, l'asymétrie homme-femme, et qui faisait partie à la fois des obligations pour les mâles et de ce que subissaient les jeunes filles, eh bien, elle est rompue par cela. Et je crois que c'est ça le plus intéressant. C'est ça, pour moi, la vraie rupture de notre époque.
Avec nous jusqu'à 13h30, deux invités. Astrid Aron, qui est co-commissaire de l'exposition De l'amour, à voir actuellement au Palais de la Découverte jusqu'à l'été prochain. Et le philosophe Francis Wolff, qui contribue à l'ouvrage qui accompagne l'exposition De l'amour, fragment d'un discours scientifique, et qui vient de signer aussi chez Fayard, plaidoyer pour l'universel, fonder l'humanisme. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30.
France Culture. La Grande Table, Olivia Jesbert.
Il n'y n'y a pas d'amour, que des preuves d'amour, dit-on. Je crois que ce sont les mots du poète Pierre Reverdy. Dans cette exposition, vous abordez aussi l'échange dans l'amour. La question du don contre don appliqué à l'amour, comme l'avait peut-être formulé Marcel Mauss. Est-ce que ça s'applique de la même manière? Je vous propose, avant d'ouvrir cette discussion, d'écouter les mots du professeur de philosophie ou du philosophe tout simplement Fabien Robertson.
Ce qu'ils disent, c'est que dans la plupart des relations sociales, notamment celles de face à face, il y a l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre. Et dans le départ de l'essai, tout son objectif va être d'abord d'essayer de comprendre pourquoi, alors qu'apparemment le don est gratuit, eh bien en fait, celui-ci engage une sorte de dette. C'est-à-dire que quand on me donne quelque chose, finalement, je peux me sentir redevable et dans l'obligation de donner à mon tour plus tard. Et à ce moment-là, on voit que ce que recouvre le vocable don dans l'essai de Marcel Mauss, en fait, c'est une sorte d'échange. Mais attention, parce que ce n'est pas l'échange marchand. Parce que il n'y a pas de valeur établie, il n'y a pas d'équivalence de départ. Et surtout, il n'y a pas la garantie du retour. Je ne sais pas si je donne quelque chose à quelqu'un, s'il va me donner à son tour. Et je ne sais pas non plus ce qu'il va me donner et le moment où il va me donner quelque chose.
Ce qui vaut pour les relations sociales, ce qui vaut pour cette idée du don contre don, formulée par Marcel Mauss et reformulée à l'instant par Fabien Robertson, vaut-il aussi pour l'amour, ce sentiment de redevabilité ou de recevabilité?
Alors oui, c'est ce que nous ont dit les sociologues qu'on a rencontrés hein, dès le début du projet, et ça nous a frappé parce que pour eux, l'amour c'est très concret. Ce sont des pratiques, des échanges, hein, comme vous avez dit, des dons, des contre-dons. Donc il y a échange, dette, négociation, et ça, on a voulu le mettre en scène dans l'exposition avec un jeu de rôle. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui va marquer par exemple la mise en couple, ça va être la remise d'une confidence, la mise en danger. Et donc on propose aux visiteurs d'endosser un rôle qui va être de chercher l'amour de sa vie ou un amour de vacances ou d'un soir, et en fonction de ce rôle de donner ou pas certaines choses qui vont être un compliment, alors pas nécessairement marchand, hein, vous l'avez compris, un compliment, inviter à boire un verre, donner les clés de chez soi, présenter ses amis, passer du temps. Et on voit bien qu'en fonction de ce qu'on attend, on ne va pas donner la même chose, mais au sein d'une même attente, il peut y avoir des variations qui sont justement à la base de difficultés et de disputes au sein des couples.
Francis Wolff.
Alors je crois que la question du don et du contre-don pose la question de la réciprocité de l'amour. Une des grandes raisons de l'instabilité de l'amour, c'est qu'au contraire de l'amitié qui est par définition une relation réciproque, je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui ne serait pas mon ami, même sur Facebook, ça marche comme ça. En revanche, je peux aimer quelqu'un qui ne m'aime pas, et c'est même le thème privilégié des farces comme des tragédies. Par conséquent, c'est précisément parce que l'amour, en tout cas dans le sens que nous prenons en ce moment, plus étroit, l'amour est essentiellement quelque chose, une relation qui n'est pas donnée comme réciproque, qu'elle cherche toujours à le devenir. C'est pourquoi, évidemment, tout cadeau à l'être aimé est à la fois une sorte de don gratuit et une demande de réciprocité. Je crois que c'est la profonde équivoque de l'altruisme de l'amour qui est profondément sincère et en même temps qui est une demande d'amour.
Et dans votre dernier essai, plaidoyer pour l'universel, vous vous appelez à repenser cette notion-là. Hein. Vous réfléchissez aussi à cette éthique à la fois de l'égalité et de la réciprocité contre l'empire des identités qui nous domine aujourd'hui. Est-ce que, justement, elle n'est possible que dans l'amitié où cette aspiration à la réciprocité que vous évoquiez pour l'amour peut aussi se réaliser dans cette éthique-là de la réciprocité?
Alors, je pense en effet que ce qui définit au mieux l'éthique de l'amitié, c'est la réciprocité. Encore une fois, le mot même d'amitié signifie que je suis ami de quelqu'un qui est mon ami. Réciproque, donc égaux, ce qui ne signifie pas symétrique. On peut avoir, il y a des amitiés asymétriques, on peut admirer plus l'un peut admirer plus que l'autre, l'un peut être en quelque sorte plus redevable à l'autre, mais il y a toujours une réciprocité dans la relation. Je pense en effet qu'elle est le modèle de ce que peut être une éthique en général. L'amitié est le modèle d'une relation que, d'une certaine manière, nous aspirerions à voir avec tout être humain, alors que certains ont parlé de l'amour du prochain. Je pense que le mot amour ici n'est pas convenable, précisément pour les raisons qu'on a dites, c'est qu'il n'est pas une relation réciproque, qui ne se commande pas. En revanche, du point de vue éthique, l'idée qu'il y ait une réciprocité, ne serait-ce que dans la parole, parce que ce qui nous fait humains, c'est le fait que nous sommes des êtres de parole, mais pas des êtres de parole au sens où nous pouvons nous exprimer, où nous pouvons communiquer. Ça, c'est une chose qui est courante chez beaucoup d'espèces animales sociales, mais le fait que nous pouvons nous dire oui ou non et donc dialoguer. Et cette capacité de dialogue qui, par définition réciproque, est une capacité que nous partageons entre tous les êtres humains en dépit de nos langues différentes et qui est la base d'une éthique de l'humanité en général que l'on trouve, si je puis dire, en minuscule, de façon atomique, dans la relation amicale.
L'amour, c'est quand même un sujet d'attention universelle qui se partage absolument partout, énigmatique, fragile, moteur de vie. Est-ce que cette exposition est aussi un plaidoyer pour l'universel amoureux, Astrid Aron?
Mais oui, parce que on y découvre combien notre espèce, hein, l'espèce humaine, a besoin d'amour et d'attachement. Et l'attachement, c'est même un besoin vital. On va par exemple traiter de l'empathie. Et dans l'exposition, vous pouvez vous livrer à un jeu auquel, qui va vous révéler non pas si vous êtes empathique ou pas, mais quelle empathique vous êtes, parce qu'en réalité nous le sommes tous de façon un petit peu différente, mais nous le sommes tous. Et on revient aussi sur ce côté attachement qui est un lien vital et dont, enfin, on relate là la théorie des psychologues qui s'appelle la théorie de l'attachement et qui rend compte de cet instinct qu'a le nourrisson en naissant d'attirer l'attention des gens qui s'occupent de lui pour obtenir ce réconfort et que en fait, ce système qui va se mettre en place entre le nourrisson et l'adulte va ensuite perdurer, être reproduit avec ses propres enfants, influencer éventuellement également les relations amoureuses. Donc on est là dans quelque chose de très universel, hein, qui dépasse vraiment une culture particulière.
Voilà, ça fait une demi-heure qu'on est réunis, on aura parlé d'amour, mais on aura très peu parlé des corps finalement et de sexualité. À regret, Francis Wolff.
Vous nous réinviterez, on parlera de ça.
Pour ce deuxième volet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour évoquer cette exposition « À voir donc au Palais de la Découverte de l'amour ». C'est avec une exposition co-dirigée, co-commissaire. Comment dit-on? Il n'y a pas de verbe aussi pour ça.
Il faudrait l'inventer. Co-pensée. Nous sommes deux commissaires.
Par vous, Astrid Aron. Merci beaucoup. Et Francis Wolff, je rappelle le titre donc de ce nouvel essai sorti à la rentrée. « Plaidoyer pour l'universel, c'est chez Fayard ». Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic qui a programmé cette Grande Table des idées avec l'aide précieuse de Laura Dutèche-Pérez qui l'a préparée, à Oriane Delacroix pour la Grande Table Culture avec l'aide de Sophie Catherine Gallet et toujours François Bréus et Sophie Marty qui nous aident précieusement tout au long de cette semaine encore. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Jean-Frédéric. Très bel après-midi à tous sur France Culture et puis très bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine.